Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la mission locale, accompagné de Amazon, moi-même et Mathilde, juste à côté de moi.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des droits des femmes, puisque la semaine dernière, mardi 8, il y a eu la journée internationale des droits des femmes.
Alors, aujourd'hui, nos invités sont Florence Capin, cofondatrice de L'Impact, et Julien Timberton.
Timberton.
Timberton. Du CDFF des voix.
Alors moi je suis la cofondatrice et associée de l'entreprise L'Impact que j'ai montée il y a à peu près presque un an avec deux de mes amis. Et L'Impact en fait est une marque de vêtements et accessoires qui met le lin à l'honneur. Et vu que la Normandie est la première productrice de lin au monde, on s'est dit qu'on était au bon endroit. Donc voilà.
Donc quel est votre rôle en fonction de la structure?
Alors, aujourd'hui, au sein de l'entreprise L'Impact, j'occupe la fonction de directrice de la communication. Et donc, Julie Bé, ça va être plus la partie commerciale. Et Megan, ça va être la partie finance, donc le rôle de DAF. Et ensuite, au sein de L'Impact, on a voulu avoir le maximum de compétences en interne. Donc, chacune va occuper d'autres fonctions. Donc, moi, je vais avoir l'administration juridique, par exemple. Je vais m'occuper aussi de la logistique interne. Et on s'est réparti à peu près comme ça les rôles en fonction des atouts de chacune.
Et comme la mission locale, nous nous intéressons aussi à votre parcours. Quel a été votre parcours professionnel et vos formations?
Alors, moi, j'ai un parcours qui n'est pas du tout commun. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que basketteuse. Je faisais mes études en parallèle. Donc, je poursuivais un BTS. Je suis ensuite partie aux États-Unis, parce que c'était mon rêve de toujours d'aller vivre aux États-Unis. Et une fois que je l'ai réalisé, je me suis dit qu'il fallait d'autres rêves. Donc, je suis rentrée en France. J'ai repris mes études à l'ESCC d'Évreux, où là, j'ai fait une licence en achat et logistique. Donc, j'ai occupé un poste d'acheteur junior dans le secteur de l'aéronautique. Et ensuite, j'ai poursuivi avec un master en achat. Et là, je me suis spécialisée dans l'industrie pharmaceutique. Donc, après mes études, j'ai entrepris l'écriture d'un livre, une autobiographie. Et Julie Bé, un jour, a eu la bonne idée de nous embarquer dans l'aventure entrepreneuriale. Et voilà. Aimant les challenges, je me suis dit pourquoi pas. Voilà comment je suis arrivée à L'Impact.
Donc, j'ai une question donc, pour Julien. Donc, quel est votre rôle au sein de votre structure?
Alors, je suis directeur adjoint au donc, CIDFF de l'Eure, c'est le Centre d'information du droit des femmes et des familles. C'est une association qui existe dans l'Eure depuis 1986, mais qui a été créée à la base en 1972. On fête les 50 ans cette année. Donc,
j'ai une question pour Florence. Dans votre carrière, être une femme a été un atout ou une contrainte? Voilà.
Alors, c'est vrai que vous posez beaucoup cette question, parce qu'on est au mois de mars, donc ça tombe bien. Mais comme on dit toujours, toutes les trois, ce n'est pas un paramètre que nous, on a pris en compte quand on a décidé de se lancer. Mais c'est vrai que lors de nos rendez-vous professionnels, on a souvent dû faire face à des hommes. Et pourtant, c'est un secteur qu'on pourrait penser majoritairement féminin. Mais c'est vrai que moi, par exemple, étant entourée de femmes inspirantes et très ambitieuses, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question à savoir si être une femme aurait pu être un frein à mon activité. Donc, pour me concernant, non.
Merci.
C'est un problème qu'on a à faire qu'avec des hommes quand on veut créer son entreprise ou pas du tout?
C'est pas un problème, mais disons qu'on remarque qu'il se permet certaines choses qui, je pense, il ne ferait pas avec des hommes, c'est-à-dire les petites remarques du genre Bah, tout dernièrement, on a eu un rendez-vous professionnel et la personne qu'on avait en face de nous, un homme qui nous a dit voilà, je vous partage un peu mon expérience. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais vous devriez plutôt faire les choses de cette façon. Alors que nous, on avait déjà réfléchi en amont, mais on s'est dit pas sûr que c'est une remarque qu'il aurait fait à un homme. Et très souvent, et des fois de femmes, on a un peu. On nous donne des petits conseils par-ci par-là de comment gérer notre entreprise, quelles décisions prendre, pourquoi on fait telle ou telle action de communication. C'est un peu chiant, mais c'est avec.
Julien, je vous vois hocher de la tête un peu là-dessus.
Oui, bah, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent, effectivement, et encore, c'est relativement soft hein, par rapport à ce qu'on entend, mais que ce soit sur le type de projet, parce que des femmes sur des vêtements, par exemple, ou sur du tissu, ou qu'on ne parle pas de vie de famille ou de tâches ménagères, etc. Et même sur l'entrepreneuriat, dans les discours qu'on a des personnes qu'on accompagne, on voit que les choses ont du mal à changer, effectivement.
J'ai une question pour Florença. Donc, quel était, comme nous sommes à la mission locale, quel était votre parcours professionnel ou votre parcours de formation?
Alors moi, j'ai commencé avec un BTS, enfin j'ai eu un bac STG à l'époque. Ça remonte, que j'ai fait en option communication. Ensuite, j'ai poursuivi avec un BTS en management des unités commerciales, aujourd'hui qui a changé de nom, je ne sais plus comment il s'appelle, et après licence et master.
J'ai une question pour Julien. Quel est votre regard sur la question de la charge mentale, tant celle du foyer que celle de la société?
Les deux sont liés, malheureusement. Quand on parle de charge mentale, alors c'est vrai qu'on pense beaucoup plus aux femmes, mais c'est vrai que dans la réalité, c'est beaucoup plus elles qui le portent. Les hommes aussi sont victimes de charge mentale. Quand on parle de charge mentale, c'est le cumul de vie familiale, vie professionnelle également, et toutes ces obligations, souvent, que les femmes portent beaucoup plus. C'est-à-dire que vous devez concilier votre vie personnelle en tant qu'individu, votre vie personnelle en tant que membre d'une famille, alors je parle de couple et de famille quand il y a des enfants, et la vie professionnelle. Ce n'est pas qu'un cumul de tâches. Quand on parle de charge mentale, c'est le fait de devoir penser et tout anticiper en permanence. Et c'est vrai que je parle vraiment de pression sociale, puisqu'on attend beaucoup encore aujourd'hui que plus les femmes vont porter le foyer, vont porter... Alors c'est bien de travailler sur l'émancipation et les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes, bien évidemment, mais il faut aussi comprendre que... une femme, par exemple, n'a pas forcément à tout porter dans le foyer, loin de là, qu'elle n'a pas forcément aussi de fonder une famille, d'avoir des enfants, et que c'est à chaque individu, membre d'un couple, de tout porter. Enfin, c'est de tout partager, je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire là-dessus.
J'ai une question pour Florença. Comme disait Manon, un petit clin d'œil à Manon, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Vous, Florença, cachez-vous un grand homme?
Je vais dire oui parce que je sais qu'on mari m'écoute, donc oui. Je cache un grand homme. Mais c'est très important et j'aimerais rebondir ce qu'a dit Julien. C'est vrai que quand on est une femme et qu'on entreprend, on ne parle pas souvent des personnes qui nous accompagnent au quotidien et en particulier nos maris. Et moi, je sais que ça a été un grand, grand, grand soutien quand j'ai décidé de me lancer. Donc, je dirais que mon grand homme, oui, c'est mon mari aujourd'hui.
J'ai une question pour Florença. En tant que créatrice de l'entreprise, quelles ont été votre facilité et difficulté que vous avez rencontrées?
Alors, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai entreprise, c'était que l'entrepreneuriat, c'était les montagnes russes. Donc, quand on se lance, on se dit, c'est une aventure géniale, on fait ce qu'on aime, donc on est toujours positif, alors que dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Pour le coup, c'est vraiment les montagnes russes. On va arriver un matin, on va débuter la semaine super motivé, on finit la semaine, on est au bord de la dépression, et ça, personne ne vous le dit quand vous commencez, quand vous démarrez une activité. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Faut vraiment prendre conscience que c'est pas un jeu quand on démarre. Faut bien s'entourer et surtout ne rien lâcher. Mais c'est vrai que quand on est dans des périodes où c'est un peu compliqué l'activité de l'entreprise, et on vous le dit pas forcément. Et ça c'est ce que je retiens de de mes difficultés en tout cas.
Les facilités, vous savez.
Les facilités, déjà, c'est d'entreprendre avec des amis. Donc ça, c'est un truc que j'aurais jamais pensé possible d'arriver au travail avec un grand smile, de faire avec des amis en plus, et de vivre cette aventure avec elle, c'est juste un plus de fou. Et même quand on est dans les moments de bas, le fait d'être trois, c'est juste génial.
Merci. Ouais.
Pour ça, pourquoi avez-vous choisi les femmes en particulier?
Alors là, je ne me suis pas posé la question, mais c'est vrai que je retrouve chez donc Megan et Julie D, mes associés, des compétences que moi je n'ai pas. Et en fait, nous on s'est rencontrés pendant nos études, donc on est devenus amis après être camarades de classe, et on a continué cette relation amicale après nos études. Et c'est vrai que le fait d'aborder... En fait, on a une relation amicale qui est très particulière, toutes les trois. On se voue mutuellement à un niveau de respect qu'on n'a pas l'habitude de voir, malheureusement, entre les personnes. Et c'est vrai que quand Julie nous a posé la question d'entreprendre toutes les trois ensemble, on a eu un moment de réflexion, et puis on s'est dit, bah, en fait, voilà, autant unir nos forces toutes les trois. Et bah, il y en a qui sont plus bonnes à certaines choses que d'autres. Et on s'est dit bah, que ça pouvait que marcher avec l'ambition qu'on a toutes les trois.
Donc, j'ai une question pour Julien. Donc, est-ce que le body positif vous apporte des réponses?
Sur la question de l'acceptation de soi, alors, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu en filigrane de tout ce qu'on fait, puisque... Quand on accompagne des femmes alors, et des hommes aussi, parce que la question du body positive, forcément, ça tombe beaucoup plus à des femmes, encore une fois, quelque chose qui touche tout le monde. Mais on est beaucoup sur la valorisation de soi, sur l'image de soi, et sur les questions des standards, par exemple, si c'est la question qui est derrière, on intervient beaucoup pour comprendre que la question, ce n'est pas forcément comment est votre corps, mais c'est plutôt est-ce que vous êtes en phase avec vous-même, est-ce que les gens vous acceptent en tant qu'individu et non en tant que silhouette, par exemple. Bon. Pour ça, c'est quelque chose qui intervient assez peu, mais on a des questions régulièrement.
Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est le body positif?
Dans les grandes lignes, c'est tout simplement d'être contre les standards qu'on peut voir un petit peu partout. Alors, même s'il y a eu quelques évolutions, il y a des grandes marques qui font des campagnes de communication sur le fait d'avoir un physique, entre guillemets, de tous les jours et pas un physique très stéréotypé. On croise très rarement. Voilà, tout simplement, vous avez votre corps, c'est le vôtre. Aimez-vous, acceptez-vous. La question, c'est si quelqu'un n'aime pas votre corps tel qu'il est là, c'est qu'il ne vous aime pas tout simplement. Donc, c'est une acceptation globale, en fait, de soi-même et au travers des autres.
Et ça est arrivé il n'y a pas très longtemps, au final, cette notion de body positif.
C'est des années milieu 90, je crois, mais c'est américain de mémoire, je crois que c'était New York, hein, mais je ne sais plus. Mais encore une fois, on ne porte pas forcément le nom de body positif, c'est tout simplement prenez l'acceptation de soi. Voilà, quel que soit votre corps, et de ne pas vous focaliser sur les standards qu'on peut voir dans les magazines auprès des mannequins, etc. C'est pareil, c'est venu en même temps que des grandes affaires. Alors on dit scandale, mais tout le monde le savait, c'est les mannequins qui étaient anorexiques. On fait des lois, on interdit l'anorexie, il faut arrêter de véhiculer ce genre d'image. Donc ça vient progressivement, mais c'est très tard encore.
Amadou, tu avais une question?
J'ai une question pour toi. Selon vous, est-ce que les aspects entre l'homme et femme, oui. C'est important?
C'est fondamental, ça fait quand même partie, vraiment, c'est une partie centrale de notre activité. Quand le CIDFF a été créé, au début, ça s'appelait CIDF, c'était Centre d'information droit des femmes. L'objectif premier, c'était d'accompagner les femmes sur les questions sociales, les questions égalitaires, les questions d'accès aux droits pour l'émancipation de la femme. C'était créé dans les années 70, on était quand même dans une époque où vraiment on arrivait à l'émancipation de la femme. Mais aujourd'hui, on est encore très à cheval sur la question de l'égalité, aussi bien au niveau des collaborateurs et collaboratrices qui font partie du CIDFF qu'aussi bien en termes d'action. Aujourd'hui, par exemple, on mène des actions avec l'AFPA notamment, où on essaie vraiment de montrer aux femmes qu'elles peuvent vraiment tout faire. Là, on a un exemple vivant d'entrepreneuriat, mais que ce soit les métiers qu'on dit non traditionnellement féminins ou non traditionnellement masculins, par exemple, on peut absolument tout faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment un biais central sur toutes nos actions.
Merci.
Oui, vas-y, excuse-moi, madame, c'est bon. Je vais me tourner un peu vers le public, savoir si vous avez des questions ou pas par rapport à ce qui a été dit. Oui.
Moi, je voulais poser à l'entrepreneuse. Vous avez parlé donc de trois personnes qui vous accompagnaient, mais donc vous parlez de vêtements, de linge. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui créent en fait pour vous? Comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, nous on travaille avec une entreprise de tricotage qui est à Troyes et on sous-traite la confection en Île-de-France. Donc nous, on va être plus à l'origine des idées. Donc aucune de nous n'a un bagage de stylisme et on fait appel en fait à des ateliers et aux tricoteurs pour confectionner les vêtements qu'on a imaginés.
Très bien, merci.
Il y avait une autre question, je crois. Non? Ok, pas de soucis. Jean-Jean, je te propose qu'on lance la première pause musicale. Thank you.
Automatic new beginning.
Participatif, le ministre des Cultures.
Alors, j'ai une question en règle générale. On prend aujourd'hui la question sous l'angle du féminin. Mais ne serait-ce tout simplement pas une question de respect de l'humain, tout simplement ?
Oui, complètement. On parle, par exemple, vous savez, on parle beaucoup des droits de l'homme, par exemple, pour, le droit de l'être humain ou le droit de l'individu, déjà, ce serait peut-être un peu différent. On a les Nations Unies qui ont défini le droit des femmes et qui avaient rédigé une charte là-dessus, je ne sais plus si c'est 2015-2018, pour vraiment mettre à l'honneur et en priorité les droits des femmes. Si on commence à ne plus faire la distinction, c'est que déjà dans les mentalités, ça aurait évolué. Si on parle plus globalement d'accès aux droits pour tout le monde, d'égalité pour tout le monde, c'est quand on ne parle plus d'un sujet qui est déjà entré dans les mœurs finalement. Ça paraît tout naturel pour tout le monde.
Sinon, vous, est-ce que la égalité entre l'homme et la femme, ou je parle des, parce qu'il y en a qui pensent que les femmes sont supérieures à des hommes, et il y en a aussi qui pensent que les hommes sont supérieurs à des femmes.
Oh, c'est une question vraiment alors, à la fois épineuse et complexe. Moi, je dirais que il y a une complétude tout simplement entre les deux. On a nos avantages, nos difficultés aussi. Il y avait une appellation archaïque où on parlait de sexe fort et sexe faible. Je dirais tout simplement qu'on a deux individus qui se complètent, tout simplement. On a nos facilités, nos difficultés. Il y a tellement de choses qui évoluent aujourd'hui pour que tout soit accessible pour tous et toutes. Parlons tout simplement effectivement d'individus. Voilà.
Je vois, Julien, que vous aviez plein de documents devant vous.
Ah ben, je suis pas venu à Paris.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, j'ai ramené plusieurs petites choses concernant le CIDFF. Donc, pour comprendre que nous, effectivement, on accompagne des femmes, mais accompagner des femmes, ça dépend dans quel domaine. On accompagne sur plein de choses, sur l'accès à l'emploi. Alors, c'est une question qui est à la fois simple et un petit peu plus diversifiée et complexe pour des femmes, puisqu'on a énormément de femmes qui sont mères célibataires isolées avec des enfants. Donc, c'est un accompagnement parfois différent. Nous accompagnons sur des questions de parentalité, parce qu'être parent, ben, ça s'apprend. Hein. On n'est pas parent, on le devient, donc on accompagne beaucoup là-dessus. On accompagne sur des questions juridiques. On a un rayonnement départemental sur cette question-là. On intervient dans 19 villes sur le département et on a 23 lieux de permanence. Voilà.
Très bien. Florence, vous avez créé du coup votre entreprise et raconté tout à l'heure les difficultés et puis les facilités que vous avez eues. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose que vous recommanderiez à une amie par exemple de montrer votre entreprise, ou est-ce que vous avez eu beaucoup, forcément trop dur ou pas du tout
Alors moi j'encouragerais toujours les gens à entreprendre. Il faut juste être prêt, comme je le disais tout à l'heure, mais voilà, moi je suis plus de la team de ceux qui encouragent à fond ceux qui ont des projets, de poursuivre leurs rêves coûte que coûte et ne jamais s'arrêter, peu importe les obstacles qui se présentent à vous.
On parlait tout à l'heure de l'évolution de la société, justement, par rapport à la surcharge mentale. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas comment vous, du coup, comment vous gérez ça. Est-ce que vous pensez que c'est différent pour une femme et pour un homme de gérer son entreprise ? Est-ce qu'il y a une surcharge mentale qui va être plus ou moins ?
Alors moi, je ne sais pas si je suis le bon exemple pour cette question, parce que quand on parle de charge mentale, et c'est une discussion qu'on vient d'avoir en off avec Julien, c'est d'avoir des femmes qui s'étonnent que les maris mettent la main à la pâte. Moi, dans mon foyer, ce n'est pas du tout le cas, et je ne félicite pas mon mari quand il vide le lave-vaisselle, je passe à côté, et je continue à faire. Mais voilà, il n'a rien inventé, et je lui dis, bah, je ne le félicite pas, donc... C'est vrai que pour moi, la question de la charge mentale, j'ai plein de choses en tête hein, concernant mon entreprise ou autre, mais je pense que ça doit être tout autant pareil pour mon mari. Donc,
Encore une question d'éducation, finalement.
Ça, aussi, je pense que ça joue aussi.
Ouais. Ça évolue à ce niveau-là ou pas du tout ? Justement, la vision de la femme qui est au foyer, qui s'occupe des enfants et qui, si elle a le temps, peut travailler.
Alors, sur la part de la vie professionnelle dans la vie des femmes, oui, il y a eu beaucoup d'évolutions. En revanche, sur la question derrière qui n'a pas été forcément bien prise en compte, et c'est là qu'on arrive à la question de charge mentale, c'est bien beau de rajouter la vie professionnelle, mais qu'est-ce qu'il en est de tout le reste ? Quand on parle d'éducation, c'est effectivement d'éducation sur le fait que je fais partie d'un foyer, je fais partie d'une famille, on répartit les tâches. Alors, l'idée, ce n'est pas dans l'absolu de faire un pur 50-50, c'est vraiment dire en fonction de mes disponibilités, en fonction de mes capacités, je participe. Effectivement, ça paraît naturel de vider la vaisselle, ça paraît naturel de filer un coup de main pour les travaux ménagers, c'est naturel de participer à la vie des enfants. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ça, par contre, cet aspect-là met du temps à venir, en fait. Ça a très long à changer.
Pourquoi, à votre avis, justement, c'est dur à changer ?
Je pense parce que c'est une question qui n'a pas été suffisamment prise en compte. Je vous donne un exemple, mais même pour des femmes elles-mêmes, quand j'expliquais en off, donc justement, c'est que quand ma compagne a eu le Covid, pendant 10 jours, je m'occupais des enfants, de mon travail, ce que j'étais en télétravail, de la maison, etc. Et ce qui m'a vraiment fait halluciner, c'est que des femmes m'ont dit par la suite, « Ah, mais c'est bien, vous avez aidé votre femme. » Ben non, j'ai toute l'année. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de mentalité. Les mentalités, c'est ce qui est le plus loin à changer.
Amadou, Mathilde ou Noël, vous avez une question ou pas par rapport à ça ? Sinon, je continue. Omran, tu as une question dans le public ? Pas de soucis, j'arrive.
Mais avant ça, comment vous voyez le futur de l'égalisation des hommes et des femmes ? Comment vous situez dans le futur à propos de ça ? Vous avez
C'est très long. Alors, on intervient beaucoup à notre niveau auprès des générations à venir, notamment dans les milieux scolaires, par exemple, alors, sur la prévention des violences sexuelles, notamment, mais sur la question effectivement de l'égalité filles-garçons. On essaie de venir auprès des parents. Parce que finalement, ça commence très très jeune. Je vous donne un exemple tout bête. La question des jouets, c'est une question qui revient souvent, notamment en période de Noël. Est-ce qu'un garçon peut jouer à une poupée ? Moi, j'ai une maman qui m'a dit, j'ai une fille et un garçon, la fille elle peut jouer avec n'importe quoi, j'ai aucun problème. Par contre, mon fils, il a interdiction de jouer avec les poupées. Bah, pourquoi ? Parce qu'il va devenir homo. C'était l'année dernière, on se dit, il y a encore du boulot. Donc, il faut éduquer les parents et les enfants. Très jeune, à comprendre que vous êtes une. Enfin, moi, par exemple, je suis papa de petites filles. Depuis très tôt, elles ont 4 et 7 ans aujourd'hui, mais vous pouvez absolument tout faire. N'importe quoi, vous pouvez aimer qui vous voulez, vous pouvez faire n'importe quoi professionnellement parlant. Tout est accessible. Si vraiment on a ce genre de discours plutôt positif dès maintenant, je pense qu'à l'avenir, il y aura des réticences en disant je suis un être humain autant qu'un homme. Je peux faire ce que je veux autant qu'un homme. Je n'ai pas à rester à la maison. Je n'ai pas à me consacrer forcément que moi à la maison et aux enfants. Et je pense que ça viendra comme ça. C'est très bien.
C'est une question d'éducation, du coup.
Pour moi, oui. Oui, mais c'est... Encore une fois, quand on s'attaque à la question des mentalités, c'est ce qu'il y a de plus loin à changer.
Omran, dans le public, tu avais une question.
Oui, bonjour. J'ai une question pour Julien.
Oui.
Alors, vous êtes un homme, mais est-ce que vous êtes féministe ?
C'est une question qui est très... Il fait débat. C'est une question aussi à la mode. Qu'est-ce que vous appelez féministe ?
Votre discours ? Votre discours, le droit des femmes, le respect de la femme. Pour moi, c'est soit féministe, soit juste normal qu'on ait le respect envers la femme, qu'on fait tout pareil, 50-50, etc.
Alors, je me considère plutôt effectivement un féministe dans le sens où les femmes doivent avoir exactement les mêmes chances que les hommes, qu'il n'est pas censé y avoir de différence entre les deux. On peut peut-être se poser la question plutôt d'un discours humaniste en disant on est l'égalité des chances pour tout le monde, on parle de sexe, on peut parler aussi d'origine, pourquoi pas. Je suis plutôt dans cette vision-là.
Vous parlez de quoi, d'origine ? Oui, il y a un régime.
D'origine.
Très bien.
Voilà.
Mais pour vous, vous voulez un monde non-genré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme-femme,
c'est qu'on fasse être humain, c'est qu'on ne fasse pas la distinction en termes d'accès, en termes de droits, en termes de possibilités entre les hommes et les femmes. La question du genre, pour moi, c'est une question qui est purement individuelle.
C'est un combat que vous faites. Une sorte de combat.
Oui, c'est un combat qu'on fait tous les jours et que mes collègues font tous les jours, effectivement.
Et si le combat est réussi, il n'y aura plus de combat sur le droit de la femme, etc. et qu'il y aura un monde merveilleux.
C'est un petit peu le parallèle d'un conseiller pour l'emploi qui dit « il n'y a plus de chômeurs, je fais quoi maintenant ?» effectivement, mais quand je reçois des personnes, on accompagne beaucoup des femmes et on accompagne femmes et hommes, je leur dis, dès le premier rendez-vous, mon but, ce n'est pas que vous reveniez, ce n'est pas que vous fidélisez, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi.
et après bah, je ferai autre chose. J'ai une question plus personnelle. Quel a été votre déclic pour faire ce combat féministe
Il n'y a pas eu de déclic. J'ai eu la chance d'avoir une éducation où à aucun moment on m'a fait comprendre qu'il devait y avoir une répartition spécifique des rôles au sein d'un foyer, que qu'on soit un homme ou une femme, on n'avait pas forcément les mêmes chances ou pas les mêmes objectifs. Donc, j'ai grandi comme ça.
Très bien, monsieur.
Mais je vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ouais.
Bonjour, moi c'est Servane et j'ai une question pour madame Florence. Je voulais savoir, est-ce que du coup, vous envisagez d'agrandir votre entreprise et pourquoi pas avec des hommes dans la confection? Si peut-être vous en avez déjà.
Alors, on n'en a pas encore, mais c'est vrai que ça poserait aucun problème d'accueillir un homme au sein de l'équipe de l'Impact. D'ailleurs, on recherche un stagiaire, une stagiaire, et si c'est un garçon, tant mieux pour lui.
Et quel type de parcours sont en termes de stagiaire? Une formation spécifique ou...
Alors là, on va plutôt rechercher quelqu'un en communication et quelqu'un qui puisse nous aider sur tout ce qui est communication digitale, développement web, SEO. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont à la recherche de stage, n'hésitez pas à postuler chez l'Impact.
Merci. J'avais une dernière question pour Julien. Vous parliez d'éducation,
oui.
De famille, des parents, mais est-ce qu'en fait le travail n'est pas plus gros que ça sur, parce qu'en fait, des jouets pour filles, des jouets pour garçons, les publicitaires, les gouvernements, les enseignes, en fait, c'est l'humanité qu'il faut éduquer.
Tout à fait. C'est pour vous dire qu'il y a du boulot. Donc, effectivement, on ne risque pas de ne plus avoir besoin de nous tout de suite. Mais quand on parle d'évolution des mentalités, c'est très, très long. Il y a quelques enseignes qui régulièrement font des efforts. Il y avait, alors, je ne sais plus en tête, mais je crois qu'il y avait Super U, Monoprix, ils avaient fait des catalogues sur des jouets vraiment pas forcément genrés, parce qu'on parle beaucoup de, du bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Et au-delà même de cette différence de couleur, une différence de prix. Il y a régulièrement des parents qui postent sur des réseaux sociaux, ils disent, vous rendez compte, moi j'ai vu un tracteur vert et rouge pour mon fils, il est à, je sais pas, à 35 euros, rose pour ma fille, il est à 38 euros. Pourquoi une différence de prix? Et pourquoi un rose? Pourquoi les couleurs? Donc, encore une fois, la lutte est globale, si on peut dire ça comme ça.
La marche est haute. Merci, monsieur.
Oui, je vous en prie.
Omran, oui.
J'ai trouvé une question. Vous pensez que nous vivons dans, on vit ou pas, dans une société patriarcale?
Alors, vous dire le contraire, c'est un peu une hérésie. Effectivement, alors après, il y a des pays où c'est plus prononcé que d'autres, mais oui, on est tout à fait dans une société qui est encore patriarcale.
Et patriarcale, ça veut dire
dominé par la question de l'homme. La question de l'homme, alors quand on dit patriarcal, c'est vraiment patriarche, le côté vraiment je suis le père de famille, je décide. C'est vraiment l'idée qui est derrière. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Alors, si on se pose la question, par exemple, dans tout ce qui est élu, Sénat, etc., il y a une vraie progression sur la part des femmes. Il y a une progression même au niveau européen. On tend vers une égalité homme-femme, à savoir 50% hommes, 50% femmes, mais il y a des pays qui sont plus en retard que nous. Nous, on n'est pas très très loin sur les députés européens, par exemple.
Et est-ce que vous souhaitez que la société que nous vivons, qui serait patriarcale, soit matriarcale, dès maintenant?
Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a du positif chez les hommes comme chez les femmes, donc l'idée, c'est pas forcément de vouloir prendre un côté ou l'autre. L'idée, c'est plutôt d'avancer les deux ensemble.
Un juste milieu.
Oui.
Très bien.
Amadou, tu avais une question, je crois.
Oui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vendez les matériels pour l'homme?
Alors aujourd'hui, on a lancé une première gamme de produits. Donc on vend des polos pour hommes et pour femmes, donc 100% lin, qui sont tricotés et confectionnés en France. Et on fait également des savons à base de lin. Donc sur les textiles et la cosmétique.
Ah, pause médicale.
Ready to go, I'm on my car, I'm ready to dump in my car, I'm about to bow, text myself, see I'm on fire, I'm ready to excited, I'm in the doorway, stop, can you hear me moaning, pull up the book, cause I'm making a morning, Song title Too Much to Taste, done by Crystal Murray.
Vous écoutez Prospective à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure, 95.9 et partout ailleurs sur Prospective.net. Principe actif, le mix des cultures.
Alors j'ai une question pour toi, Julien. Est-ce que dans ton éducation, tu as eu des vêtements bleus, plus de bleus, des jouets voitures?
De tout.
De tout?
J'ai eu de tout.
Et est-ce que tu as répercuté ça sur tes enfants si tu en as?
Oui.
D'accord.
Comme je disais tout à l'heure, j'ai deux filles. Parfois je joue avec la poupée, parfois je joue avec des voitures. J'ai ma grande qui adore venir bricoler avec moi. Je lui ai acheté des petits outils. Voilà. Comme je le disais, elle fait absolument ce qu'elle veut dans le sens. Sur les activités qu'elle a envie d'essayer. Elle peut, demain, elle dit, bon, ce sera plus compliqué, mais elle veut faire du motocross, on verra. Elle veut faire de la danse classique, on verra. Mais, voilà.
J'ai une question en général. C'est pourquoi les métiers dans lesquels il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, par exemple, on prend les métiers du bâtiment, où les femmes sont beaucoup moins acceptées, on leur donne beaucoup moins l'occasion d'entrer dans un style de métier?
Alors, c'est pas forcément qu'on leur laisse moins la chance de rentrer. C'est, alors, il y en a bien évidemment, mais c'est très souvent que les femmes, enfin beaucoup de femmes elles-mêmes, ne pensent pas à ces orientations professionnelles. Je le disais tout à l'heure, nous avons une action qu'on fait en partenariat avec le centre de formation AFPA, d'accord, soutenu par les services du préfet et les services départementaux pour l'égalité des droits des femmes. Sur l'accès et la sensibilisation aux métiers non traditionnellement féminins. Je parle de sensibilisation, c'est vraiment sur l'ouverture des chakras. Hein. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'ouverture sur les choix professionnels, on va rencontrer des formateurs sur les plateaux techniques de l'AFPA, et les formateurs et les recruteurs ont tous le même discours. Mais mesdames, on vous attend. C'est-à-dire qu'on a une femme qui vient apporter de la mixité. Déjà, effectivement, on parlait du bâtiment, c'est un métier où on aura plus d'hommes. prenons la question de la mécanique, hein, par exemple, on a des plombiers chauffagistes, on a des femmes qui se lancent là-dedans, et les recruteurs sont contents. Parce que très souvent, au niveau professionnel, les femmes ont tendance à être, par exemple, plus soigneuses, plus organisées, souvent que beaucoup d'hommes. Il y a des formateurs qui sont contents parce que la mixité, on sait que c'est une amélioration au sein d'un groupe. Donc, au contraire, c'est plutôt vraiment une question de oser. On parle d'entrepreneuriat, mais c'est pareil sur la question de l'objectif professionnel, oser.
Alors justement, dans ces métiers dits plus hommes, mécaniques, bâtiments ou autres, oser, je suis d'accord, c'est bien, mais le problème, c'est que beaucoup de ces métiers restent où il y a des charges lourdes, des appareils qui risquent d'être pas très commodes, on va dire, pour des femmes. Il y a aussi des tenues qui sont pas... ces tenues n'existent pas pour les femmes, et bien souvent, elles se retrouvent avec des vêtements beaucoup trop grands.
Alors, de moins en moins.
Ouais. Oui.
Sur la question des tenues, de moins en moins, puisqu'il y a beaucoup d'efforts de fait. Sur la question, on parlait de charges lourdes ou tout simplement de force, il faut savoir qu'il y a eu tellement de travail de fait, alors ce n'est pas forcément l'objectif premier, mais il y a eu tellement d'efforts de fait pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, par les métiers du travail, sur les gestes de couture, etc., qu'aujourd'hui, justement, d'un point de vue technique, les choses sont beaucoup plus accessibles. On n'est pas obligé de faire 1m80, d'être gaulé comme une armoire à glace pour être premier chauffagiste ou électricien aujourd'hui. Pas du tout.
Oui, Amadou.
Oui. J'ai une question pour Julien.
Oui.
Selon vous, est-ce que c'est injuste que les hommes sont mieux payés que les femmes?
Bah, bien évidemment. Non, bien évidemment, c'est totalement injuste. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui font des efforts. On parle de l'égalité salariale, mais c'est également. On peut même parler, par exemple, sur l'entretien de recrutement. On pose aujourd'hui beaucoup plus la question encore à des femmes, plus à des femmes qu'à des hommes, sur la question d'enfants. Alors que si on est papa, je suis papa, on peut aussi s'occuper d'enfants. Voilà, donc l'inégalité est vraiment à ce niveau-là aussi.
Mathilde, tu as une question? Non, je voulais prendre...
J'en avais vu, mais je l'ai oublié.
Tu l'as oublié. Ben, je te laisse réfléchir à ta question. Sur les métiers, j'en avais une autre aussi, et du coup, je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Je vais bien retrouver quelque chose. Oui, alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut au niveau de l'orientation? Est-ce qu'on n'a pas aussi un peu de mal à orienter les filles vers des métiers, leur proposer des métiers, des bâtiments ou autres?
Ça dépend sur qui veut tomber.
Ouais.
La question du choix professionnel, alors on commence à nous la poser souvent dans les milieux scolaires. Je ne peux pas supposer ou préposer sur la question de la formation et du travail qui sont faits par les conseillers d'orientation. Ici, à l'émission locale, vous avez des conseillers et des conseillères qui sont là pour vous accompagner sur l'objectif professionnel. Le conseiller est important. Là, il a vraiment un rôle où vraiment, ce n'est pas parce que tu es un homme que tu dois faire plutôt de tel domaine, etc. On a beaucoup de jeunes femmes, par exemple, parce qu'à une époque, j'ai travaillé en ce moment pour l'émission locale, et on avait beaucoup de jeunes femmes qui me disaient j'ai eu mon premier enfant, donc j'aimerais bien aller travailler dans la petite enfance. Sauf que, alors bien, mais il y a peut-être d'autres voies à trouver.
Est-ce que, du coup, la religion joue dans un couple? Par exemple, pour vous, est-ce que la religion est très importante ou il ne faudrait pas compter sur la religion pour des excuses, pour trouver des excuses?
Ah, vous m'avez soigné aujourd'hui. Alors, pour faire simple, parce qu'il n'y a pas de débat à avoir, mais je dirais qu'on a parfois, quand on accompagne des femmes, il y a parfois des questions culturelles, plutôt que religieuses, mais plutôt culturelles, d'ensemble, qui sont à prendre en compte. Après, c'est une question qui est tellement personnelle, à aucun moment on ne se verrait émettre une opinion, ou voilà. On explique que quand on accompagne une personne, je prends par exemple le cadre de l'accompagnement RSA, puisque nous accompagnons des personnes au RSA, alors plus des femmes que des hommes. Il y a effectivement la question culturelle. Nous, on est focalisé exclusivement sur la question du cadre de l'accompagnement, tel qu'il est décidé par le conseil départemental. D'accord. Et après, c'est à chaque personne majeure, responsable de ses actes, de trouver son juste milieu. Nous, on ne peut pas intervenir. Ça n'a pas sa place, si vous voulez, dans l'accompagnement. On explique juste que nous, par rapport à ce qu'on fait, puis par rapport au cadre légal et administratif français, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, tout simplement.
D'accord.
Bonjour, moi je suis Sandra, conseillère à la mission locale. J'avais juste une remarque à faire par rapport au choix, entre guillemets, des métiers féminins, des métiers masculins. Parce qu'on a quand même affaire parfois à des jeunes qui vont vers les métiers masculins, enfin dits masculins, et qui finalement en reviennent parce qu'elles sont parfois assez mal acceptées dans les équipes d'hommes. Et certaines, c'est vrai, abandonnent parce que vraiment c'est trop trop compliqué pour elles de supporter et les remarques et les regards, etc. Et voilà. Et du coup, je pense qu'il y aurait aussi un travail à faire des équipes,
oui,
pour le coup des salariés hommes qui ont un peu de difficultés parfois.
C'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement et malheureusement, ça va être très long encore une fois à changer. De plus en plus d'entreprises, alors plutôt grandes, interviennent et nous demande d'intervenir sur l'égalité homme-femme et sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc c'est une question qui revient souvent. Sur la question des préjugés, ou tout simplement, tout à l'heure, votre collègue parlait de questions d'accessoires, questions de tenues, etc. Ou tout simplement, par exemple, il n'y a qu'un seul vestiaire, on a des hommes et des femmes, on fait comment ? Rien que ça. Bon, il y a des choses à organiser, mais beaucoup de recruteurs sont très ouverts à la question vraiment de la mixité aujourd'hui, mais encore une fois, ça va être très très long, donc on fait progressivement. On pourrait se poser une question, par exemple, d'échanger avec la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce pour vraiment, vraiment prêcher la bonne parole au maximum.
Oui, je pense que des formations sont possibles, effectivement, auprès des équipes.
Ah oui, oui, non, non.
Enfin, de l'information, de la formation, mais au moins de l'information.
On parle beaucoup de sensibilisation.
Oui, voilà. Oui.
Voilà, ça, on en fait toute l'année, dans tout milieu scolaire, on est intervenu chez les forces de l'ordre, on est intervenu aussi à l'IFSI, école infirmière, et beaucoup de plus en plus d'entreprises nous sollicitent aussi au travers de leurs équipes pour dire voilà, les hommes et les femmes ont leur place à égalité et les comportements de nature sexiste n'ont pas leur place. Donc ça montre que plus cette demande est importante, plus les mentalités évoluent.
On a une deuxième question dans le public. Bonjour, Servane, mission locale, conseillère. Pour madame, je voulais savoir de qui vous vous êtes entourée, à part vos deux amis, pour monter votre entreprise, comme, institution ou association.
Alors, nous, on est accompagnés par la CCI d'Évreux, qui nous a aidés sur le montage de la structure de l'entreprise et qui nous accompagne aujourd'hui sur d'autres missions. On a également la Pépite.
Juste pour ceux qui ne connaissent pas la CCI, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est ?
Alors, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie qui se trouve, je ne sais pas trop, vers Carrefour, etc. Voilà, qui va accompagner les entrepreneurs. Donc, nous, on est accompagnés aujourd'hui à travers un dispositif qui s'appelle Ici, je monte ma boîte, dont on va bénéficier pendant 3 ans, où on a une conseillère dédiée qui nous aide sur toutes les questions qu'on pourrait avoir sur l'entreprise.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui viendraient à l'esprit, soit dans le public ou même Julien, Amadou, oui.
Oui, est-ce que vous avez financé votre entreprise toute seule?
Alors, nous, on est venu avec un apport, donc avec chacune 5 000 euros, donc 15 000 euros pour monter la structure de l'entreprise. Et aujourd'hui, on essaie de prétendre à plusieurs subventions de la région, notamment pour nous aider à financer notre projet.
Vous avez la Fondation des femmes aussi qui accompagne beaucoup les femmes entrepreneurs.
La Fondation,
des femmes.
Je ne connaissais pas.
C'est une fondation au niveau national qui intervient pour les structures qui accompagnent des femmes et qui parfois intervient sur certains projets entrepreneuriaux.
D'accord, bon, je note. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter, Julien et Francia, qui n'aurait pas été abordé et que vous auriez aimé parler aujourd'hui?
Bon, écoutez, non, pour l'instant, non.
Amadou, je te laisse nous parler des bons plans et des infos locales. Je te laisse prendre ta feuille. Vas-y.
Les samedis 19 mars, les centres au Libre des Nouveaux organisent le grand rencontre de 9h à 17h. Visite des magasins.
Alors, Julien va venir. Oui. Julien, vas-y, je te laisse le micro.
Ah, désolé, je vais arrêter de prendre le micro. J'ai pas mis Amadou dans de très bonnes conditions en lui donnant les infos, donc je fais mon mea culpa. Donc le samedi 19 mars, comme le disait Amadou, le Centre Leclerc du Nouveau organise la grande rencontre. Donc ça se fera de 9h à 17h. Durant cette journée, donc l'idée c'est de pouvoir visiter un petit peu l'envers du décor. Visite donc du magasin, et il y a surtout des entretiens de recrutement qui seront réalisés puisqu'il y a plus de 20 postes à pourvoir. Voilà pour la première info.
Oui. Je me permets juste de rajouter les 6 et 7 mai, on a le salon de l'emploi aussi à Évreux.
Oh, justement, ouais.
Et le 31 mars, il y en a un sur Louviers.
Tu disais
le 31 mars, d'accord. Un salon de l'emploi à Louviers.
Salon de l'emploi. Ouais. Alors, je vais y venir aussi sur les salons de l'emploi. Il y a aussi donc, le 30 mars à Évreux, le bureau information jeunesse qui propose, comme chaque année, le forum Job d'été. Donc, rendez-vous de 14h à 18h à l'Halle des expositions à Évreux. Et puis, une info que je n'avais pas notée à Amadou. Pour Amadou, le 7 avril, 10h-13h, le forum emploi, donc emploi H-A-N, en l'occurrence un salon qui est plutôt tourné, qui est dédié aux personnes en situation de handicap. Alors, n'y allez pas comme cela, en fait, le salon se fait sur invitation. Donc voilà, si vous bénéficiez d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi, afin de pouvoir être convié à ce forum. Voilà, et c'était tout.
Merci.
Mathilde, je te laisse. Vas-y, conclure.
C'est la fin de l'émission de radio, de l'émission locale. Je voulais remercier Florence d'être venue, qui est, on le rappelle, cofondatrice de l'Impact. Et Julien Tumperton, merci d'être venu,
merci vous deux,
qui est sous-directeur, on le rappelle, du CIDFS. Vincenzo, merci beaucoup d'être là avec nous. Et Jean-Jean, merci beaucoup. Merci à Amadou, à Manon, qui n'a pas pu être là, à Noël. Et moi, merci.
Vraiment merci.
Eh bien, merci Mathilde, et on se quitte sur un morceau d'Amadou.
My people, whatever hustle and you are doing, or dreams you are dreaming to become, or yet hasn't come true, whether career, business, and project, etc., etc., please don't give up, try again. One good day, your time will surely come. I advise you not to be in the wrong, stay patient, for whatever God has planned for you, we have at some time. Please, my brothers and sisters, don't watch it. Keep hustling, keep dreaming, keep working very hard, keep doing that business. You know the world you're going to make it. Please, keep talking. Keep doing that business. Keep hustling very hard. Don't be discouraged. Keep working very hard. Keep grinding. Keep grinding. One day it shall be well. Keep working hard. Please don't give up. Try again. Please don't give up. Try again. Try again. Please don't give up. Try again. My brothers and sisters, even though the hustle is still very hard, very difficult, please don't give up. Even though it doesn't work out for you, please don't give up. Keep on trying. One day it shall be well. Like Santa to Pasquale says, weepings they endure for the night, but joy comes in the morning. Please keep on trying. One day it shall be well. Please don't give up. Try again. Please don't give up.